France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des élèves harceleurs réintégrés dans leur lycée et qui retrouvent l'élève harcelé, la décision ne passe pas. Dans un lycée du Var, les professeurs se mettent en grève, soutenus par les parents d'élèves. Le rectorat explique qu'il ne fait qu'appliquer la loi. On y revient dans un instant. À suivre encore 600 millions d'euros pour accueillir les chercheurs qui veulent quitter les États-Unis. Bonjour Lise Roseveille.
Bonjour.
Union européenne et France présentaient leur plan ce matin.
Oui, 100 millions en France, 500 millions en Europe et des objectifs communs, affirmer la liberté de la recherche scientifique et en profiter pour soutenir les économies françaises et européennes.
Vos précisions dans quelques minutes. La France a-t-elle vraiment les moyens d'attirer ses chercheurs? Le président de France Université, notre invité à partir de 13h30, 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages si vous travaillez par exemple dans la recherche. Nous parlerons également dans les prochaines minutes d'Israël. Le gouvernement Netanyahou semble vouloir conquérir la bande de Gaza. De la grève à la SNCF, première perturbation depuis ce matin dans les transports régionaux. Du fleuve Charente avec ce plan pour détourner une partie des eaux d'un autre fleuve, la Dordogne pour l'alimenter. Et des arnaques aux fausses places de concerts ou de matchs qui se multiplient. À 13h45, notre feuilleton, la nouvelle vie d'une figure de l'Assemblée nationale, le communiste André Chassaigne.
C'est un petit village, 500 habitants, 100 mètres d'altitude, je respire et quand j'arrive, si je suis en voiture, je vois les volcans près de Clermont-Ferrand. C'est une forme de bouffée d'oxygène que je prends.
Il vient de rendre son écharpe de député, nous le suivons de retour sur ses terres. 13h50, c'est la France. Les mots de nos régions sont encore rares dans le dictionnaire, il faut que ça change, nous dira Mathieu Avanzi. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Jeanne Chéral demande la chanteuse Camille à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un lycée à l'arrêt depuis ce matin, le lycée du Golfe de Saint-Tropez, commune de Gassin dans le Var. La question du harcèlement scolaire est au cœur de cette mobilisation massive. Professeurs, personnel administratif et de vie scolaire protestent contre la réintégration de deux élèves. Ils ont été sanctionnés pour harcèlement, ont reconnu les faits. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Mais cette décision a été cassée en appel, c'est ça?
Oui, il y a eu d'abord une décision du conseil de discipline au sein du lycée qui a prononcé une exclusion définitive pour des faits de harcèlement. Les parents avaient 8 jours pour contester et c'est ensuite une commission d'appel au niveau du rectorat qui s'est réunie, présidée par la directrice de cabinet de la rectrice et composée d'un inspecteur, de 2 représentants de parents d'élèves, d'un chef d'établissement et d'un enseignant. Le proviseur du lycée du Golfe de Saint-Tropez ne s'est pas présenté à cette commission et le pôle académique de lutte contre le harcèlement n'avait pas été saisi en amont. Mathieu Sieille, inspecteur d'Académie du Var, explique la décision prise à l'unanimité.
La commission d'appel a maintenu l'exclusion définitive, mais y a mis un sursis. C'est sur des problématiques qui sont liées aussi bien sur la forme, sur la procédure, que sur le fond. Et effectivement, il nous appartient maintenant d'essayer d'expliquer, mais je rappelle qu'on est resté du début à la fin uniquement sur du droit, sur du réglementaire. En cas de, à nouveau de dysfonctionnement, cet élève sera à ce moment-là exclu définitivement.
En général, à 80%, les sanctions prises en conseil de discipline sont confirmées en appel. Là, c'est plutôt l'exception, d'où cette incompréhension des personnels. Marie Guiraud, professeure de français, parle au nom de ses collègues au micro de Marilyn Ottmann d'ICI Provence.
Nous, on a l'impression d'un énorme décalage entre les annonces médiatiques. L'éducation nationale en parle beaucoup, on a fait une cause nationale, l'Académie, c'est une académie pilote sur le harcèlement. Et par ailleurs, quand nous, personnel de l'éducation nationale, nous faisons remonter des faits de harcèlement graves et notre inquiétude, on n'est pas suivi.
Le rectorat va maintenant faire intervenir ses référents anti-harcèlement au lycée pour tenter d'apaiser la situation.
Explication signée Sonia Princey. À la SNCF, là, la grève ne prend personne de court depuis ce matin, annoncée depuis des semaines par les syndicats CGT Cheminots et Sudrail pour demander des hausses de salaire et des plannings anticipés. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
On va s'arrêter sur ces revendications avec vous dans un instant. D'abord, les perturbations de trafic. Le mouvement va durer toute la semaine, mais jusqu'à jeudi soir, soir minuit, les TGV circulent normalement, nous dit la SNCF. Pour l'instant, ce sont donc les trains régionaux qui sont les plus concernés. Régions les plus touchées ce matin, les Hauts-de-France, avec un TER sur trois en circulation, et l'Île-de-France, avec des Transiliens et des RER B et C plus particulièrement touchés. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Jérôme.
William, vous êtes en direct de la gare du Nord à Paris. Quel est l'état du trafic ?
Alors sur les grandes lignes, les trains prévus sont au tableau des arrivées et des départs. Ce lundi de grève ressemble à une journée assez normale ici, gare du Nord. Nathalie sillonne la France. Plusieurs trajets au programme aujourd'hui.
Bah nous, on vient du Loiret et on avait notre train au départ. Il n'y a pas eu de souci. Donc de Montargis à Paris-Bercy et après Paris-Nord-Bruxelles et Bruxelles-Namur.
Tous les trains ont été maintenus.
Oui, il n'y a pas de problème.
C'est plus compliqué en fait au sous-sol de la gare. Un train sur deux seulement sur le RER B au nord. Du côté des TER Hauts-de-France, des perturbations à signaler aussi. Cédric a dû prendre ses dispositions hier soir.
Moi j'ai reçu un mail comme quoi mon TER était annulé suite au mouvement de grève. J'ai dit bon bah c'est tout, c'est comme ça, j'ai pris ma voiture. Et... J'ai été à la grande gare. Maintenant, on rentre à la maison. Et tout va bien sur les grandes lignes.
Elle part à Lille ce midi. Le TGV de Manon circule et elle soutient les cheminots qui sont en grève.
Je les comprends, en espérant que ça ne nous handicape pas trop dans notre quotidien, nous qui travaillons également. On continue de croiser les doigts pour le retour aussi, puisque je repars mercredi et j'espère que je serai aussi chanceuse mercredi.
Pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles sur le trajet de mercredi ?
Non, absolument pas. Pas d'infos, pas de visibilité.
Et pour la suite de la semaine, les syndicats que nous avons pu joindre prévoient une montée en charge progressive de leur mouvement.
William Delesseux avec les moyens techniques d'Éric Audra. Trafic très perturbé également depuis ce matin autour de Tours, mais là en raison d'une caténaire arrachée sur une vingtaine de mètres. Alors Maxime Debs, on vous retrouve. Est-ce que ce mouvement peut encore être levé ? Est-ce que des négociations sont prévues ?
Alors non, et pourtant côté syndicat, on assure que les portables sont allumés, mais pas un coup de fil à ce stade de la direction qui assure, elle, avoir fait le job. Ça, c'est pour reprendre les mots du patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. Il y a eu 25 réunions. Alors c'est vrai, on s'est retrouvés face à face 25 fois, reconnaît un représentant Sudrail, mais avec une direction qui acte les problèmes, les sujets levés par les syndicats sans rien proposer réellement derrière. La SNCF met en avant de son côté 2,2% de revalorisation moyenne des salaires l'an dernier, une prime d'intéressement à venir ce mois-ci. Ils additionnent un peu tout pour dire qu'on a été augmenté de partout, mais les revendications ne sont pas que sur la rémunération, rappelle la CGT. Il y a la question des conditions de travail, des plannings qui changent sans arrêt, des sujets qui ne sont pas traités. Ce sera compliqué de répondre à toutes les inquiétudes, mais pour stopper la grève, il nous faut des marqueurs forts, maintenant, sans attendre, implore la CGT.
Merci Maxime Debs. Côté météo, le week-end a été marqué par de nombreux épisodes orageux, notamment samedi, des Pays de la Loire jusqu'aux frontières allemandes, en passant par Paris. Le Béarn a lui aussi été touché, tout comme les monts du Lyonnais ou encore la chaîne des Puys, près de Clermont-Ferrand. Partout, agriculteurs et viticulteurs constatent les dégâts, surtout quand la grêle s'est invitée. Ici, dans le vignoble de Champagne, à Vertoulon, où s'est rendu Salomé Pineda.
Guillaume est viticulteur en haut de la colline du village et il rejoint son voisin Sébastien pour faire l'état des lieux des dégâts de la grêle sur leur parcelle.
Moi je suis bien touché aussi hein, sur
oui,
le plateau.
Oui. Hein. Et plus rien. Bon là on voit clairement que ça a tapé comme ça.
Mais ça venait.
On voit la position des impacts.
Au sol, ça sent encore l'humidité partout. Sébastien regarde ses 5 hectares. Près des 2/3 ont été décapités.
Il n'y a plus de tête, tout a été coupé par la grêle et le vent. S'il n'y avait pas eu de vent, je pense qu'on n'aurait pas eu autant de dégâts.
Et pourtant le viticulteur installé depuis 97 en a vu des intempéries, mais jamais aussi virulente un mois de mai.
Le plus mauvais moment. Disons qu'on a travaillé une année pour pas grand-chose.
Et oui, le bois est bien tendre, donc très fragile. Voilà, très très dramatique, ça l'est.
La vigne va être stressée toute l'année. Là. Pour la taille l'année prochaine, ça va être très compliqué.
Ouais. Ils savent déjà qu'il va falloir travailler deux fois plus pour sauver la casse. Mais heureusement, les deux vignerons ont des cuves de secours qui reposent à la coopérative de Vertoulon.
Ça, c'est un réconfort. Réconforté d'avoir la réserve individuelle.
C'est une année d'appellation, à peu près. 1000 kilos hectares, c'est notre assurance grêle ou gel, en espérant qu'on a une année sèche, pas pluvieuse comme l'année dernière.
Et sur le goût du champagne, Sébastien, comme Guillaume, assure qu'il ne sera pas impacté par cet épisode. Il gardera, promet-il, son côté minéral qui plaît tant à leurs clients.
En reportage ici, Champagne-Ardennes, dans le bassin de la Charente. Là, c'est l'avenir du fleuve qui est en cause. D'ici 25 ans, son débit devrait baisser de 30 à 40% en raison du changement climatique. Avec de lourds enjeux, la ville de La Rochelle, par exemple, puise son eau potable dans ce cours d'eau à 60 km. Alors pour sauver la Charente, 2040. Les élus locaux et l'agence de l'eau Adour-Garonne préparent un projet d'une ampleur rarement vue. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Puiser de l'eau dans le fleuve Dordogne, dans le département de la Corrèze, c'est-à-dire à près de 200 km.
Oui, c'est un peu un rêve d'ingénieur hydraulique, récupérer l'eau dans la Dordogne, une rivière abondante, pour alimenter le fleuve Charente l'été quand il est au plus bas. L'agence de l'eau Adour-Garonne va présenter plusieurs scénarios aux élus locaux d'ici l'été. Sa directrice générale, Élodie Galco.
Très concrètement, c'est du tuyau en fait qui part de la Dordogne et qui rejoint la rivière de la Vienne pour ensuite renvoyer l'eau sur le fleuve Charente. Il y a 200 km qui sont concernés.
Un partage de l'eau entre la Corrèze et les départements voisins pour s'adapter au réchauffement climatique et éviter les coupures d'eau potable dans un avenir très proche.
Dans le Grand Sud-Ouest, à horizon 2050, toutes les études scientifiques montrent qu'on va manquer de plus d'un litre sur deux si on ne fait rien. Et c'est particulièrement vrai en Charente parce que il y a pas des barrages qui soutiennent les débits comme ça existe sur la Dordogne ou sur la Garonne. Hein. Et en plus de ça, on a des besoins pour le tourisme, pour l'agriculture l'été sur la Charente qui renforcent une demande en eau à un moment où elle est très rare.
Un projet d'acheminement de l'eau à plusieurs centaines de millions d'euros.
Ce n'est pas, Sandy, le seul projet de ce type dans notre pays.
Eh oui, 2000 ans après les Romains et leurs aqueducs, on n'a rien inventé. Il y a le canal de la Neste qui partage l'eau des Pyrénées, le canal de Provence aussi, et puis plus récent, le réseau Aqua Domitia. Depuis 2017, il puise dans le Rhône pour alimenter le Gard, l'Hérault et l'Aude. Il doit d'ailleurs être prolongé pour soulager les Pyrénées-Orientales, le département le plus touché par les sécheresses.
Sandy Dauphin pour ses explications.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Qui peut devenir français? Qui peut séjourner et travailler dans notre pays? À ces questions, et comme en stéréo ce matin, le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont apporté des réponses dans deux dossiers différents. Bruno Retailleau a demandé au préfet de durcir les conditions pour devenir français. On va voir ça dans une minute. Quand Emmanuel Macron, lui, a plaidé pour l'accueil et pour l'ouverture des chercheurs qui voudraient quitter les États-Unis et venir en France, Lise Rosveille, on vous retrouve en direct de la Sorbonne à Paris où le chef de l'État a lancé avec la présidente de la Commission européenne l'initiative Choose Europe for Science. Choisissez l'Europe pour la science et Europe et France vont mettre de l'argent supplémentaire sur la table.
Oui, devant un parterre de chercheurs, un amphithéâtre plein, Emmanuel Macron dénonce le diktat contre la recherche lancé par Donald Trump et il lance lui un appel de la Sorbonne.
Des moyens supplémentaires seront mis en place. 100 millions d'euros que l'État apportera à travers France 2030. Et je le dis avec force, un chercheur étranger ne remplacera pas un chercheur français ou un chercheur européen. C'est l'esprit même de la science de chercher cette coopération.
Une réponse aux critiques des syndicats de chercheurs en France ces derniers jours qui dénoncent une opération de communication alors que les universités françaises sont dans le rouge. Accueillir des chercheurs menacés par les politiques de Donald Trump, pour Emmanuel Macron, c'est un impératif moral et humain pour préserver la liberté scientifique, mais aussi un moyen de soutenir des secteurs économiques clés et renforcer la souveraineté française et européenne.
Il n'y a pas d'indépendance de notre Europe, pas d'autonomie stratégique sans une science libre et forte en Europe. Et choisir la science, c'est en quelque sorte, enfin c'est même résolument aussi, refuser la vassalité.
Un accueil humaniste donc, mais aussi une opportunité économique. La présidente de la Commission européenne annonce de son côté débloquer 500 millions d'euros sur 2 ans pour accueillir les chercheurs en Europe. Elle veut aussi inscrire la liberté de la recherche scientifique dans le droit européen.
L'Europe a fait son choix.
We are choosing to start a new
Nous choisissons
invention and ingenuity.
D'entrer dans un nouvel ère d'invention. Notre message
science.
Est très clair. Choisissez la science et choisissez l'Europe. Merci beaucoup.
La France et l'Europe veulent donc que tous les chercheurs répondent à leur appel.
Lise Rosveille en direct avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. On y revient à partir de 13h30 avec notre invité, le président de France Université Lamri Adoui. Et avec vous, 01 45 24 7000 pour vos questions. Là, on parle donc de la nationalité française. 66 000 personnes l'ont acquise l'an dernier, c'est-à-dire qu'elles ont été naturalisées dans le cadre de la loi. C'est le ministre de l'Intérieur qui fixe les règles. Il viendra d'adresser c'est une circulaire au préfet, circulaire qu'il a détaillée ce matin à Créteil. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes sur place pour Inter. Qu'est-ce qui va changer, Erwan ?
Eh bien, ce qui change, explique Bruno Retailleau, ce sont ces trois nouveaux critères qu'il qualifie de triple effort pour obtenir la carte d'identité. Le premier porte sur le respect de nos lois, avance le ministre.
Lorsque quelqu'un a été condamné, pas question qu'il puisse entrer de plein pied dans la citoyenneté française, qu'on puisse lui donner une carte d'identité française.
Les préfets ont également pour consigne de rejeter les demandes des étrangers qui auraient été en situation irrégulière en France par le passé. Autre critère, la connaissance plus pointue de la langue française. Le niveau demandé passe de B1 au niveau supérieur B2, c'est-à-dire être capable de s'exprimer avec une certaine spontanéité. Et un examen de civisme est mis en place dès le 1er janvier prochain.
Qui permettra de connaître auprès du demandeur sa connaissance de notre histoire, de la culture civique qu'il peut avoir, puisque comme il veut faire partie pleinement de la communauté française, il faut qu'il puisse connaître de quoi il en retourne.
Dernier effort de la part du demandeur, il devra prouver qu'il travaille et cotise en France, présenter un CDI d'un an si possible, ou plusieurs CDD pour ne pas avoir besoin de l'État pour vivre, dit le ministre de l'Intérieur.
C'est donc parfaitement juste que les préfets vérifie si les demandeurs disposent de ressources suffisantes pour ne pas dépendre de ces aides sociales.
Pour Bruno Retailleau, cette nouvelle circulaire doit permettre de mieux juger le sentiment d'appartenance à la France des demandeurs de la nationalité.
Erwan Chassin à Créteil avec les moyens techniques de Raymond Albouy. C'est une nouvelle fois l'argent des crypto-monnaies qui était visé par les ravisseurs. Ce week-end, département de l'Essonne, la police a libéré le père d'un homme ayant fait fortune dans ce secteur. Il avait été enlevé jeudi à Paris avec demande de rançon, son doigt coupé par les malfaiteurs. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Cette affaire rappelle évidemment le kidnapping fin janvier dans le Cher de l'un des as de la crypto-monnaie en France, David Balan, et tous ses patrons vivent aujourd'hui avec la peur au ventre.
Ils ont en tout cas bien noté l'accélération des enlèvements. Grégory Raymond est cofondateur de The Big Whale, un média spécialisé dans les crypto-monnaies. Il a recensé 4 faits marquants en France ou en Belgique, rien que depuis janvier.
Alors ceux qui ont les moyens sont en train de préparer leur départ à l'étranger, hein, mais le pari reste quand même limité quand on sait que les proches sont aussi visés dans ce type d'affaires. Donc oui, il y a une sorte de psychose qui entoure l'écosystème crypto français aujourd'hui.
La criminalité organisée semble en effet s'intéresser de plus en plus à ces crypto-monnaies. C'est ce que confirmait ce matin sur France Info Fabrice Gardon, il est le patron de la police judiciaire parisienne.
Dans les bijouteries, etc., vous avez des mesures de protection, vous avez des sas, c'est compliqué d'avoir accès à l'argent liquide. Le milieu de la crypto-monnaie, on est sur des personnes qui possèdent parfois des sommes énormes, hein, et c'est de l'argent très vite disponible.
Mais c'est aussi, et contrairement à ce qu'on a tendance à croire, de l'argent facilement traçable, précise le spécialiste Grégory Raymond.
Récupérer une rançon ou même une partie infime d'une rançon en crypto, ça revient à mettre une puce GPS numérique sur vous à vie. Un jour ou l'autre, les commanditaires seront retrouvés.
Grégory Raymond conseille donc de rester, évidemment, et c'est du bon sens, discret sur sa fortune et déposer les fonds dans des banques spécialisées en crypto-monnaie qui seront capables de détecter tout mouvement suspect, comme ce qui peut ressembler à un versement de rançon.
Ariane Grissel, à Laval, en Mayenne, l'enquête sur la disparition de Sophie Chéen en 1996. Cette enquête est relancée. Des fouilles ont débuté ce matin dans la cave de l'appartement qu'elle occupait au moment de sa disparition. Un nouveau directeur d'enquête avait été nommé en janvier dans cette affaire. Information de nos confrères d'ici Mayenne. En Corse, le préfet de Lille a lancé lundi dernier une opération « Déposons les armes » pour prévenir les violences qui endeuillent régulièrement la région. Il appelait les Corses à venir déposer leurs armes. Le résultat final semble modeste. 96 armes et 4280 munitions ont été remises dans les commissariats et les gendarmeries de Lille. Mais le préfet Jérôme Filippini est bien décidé à renouveler cette opération l'an prochain. Exemple à l'appui.
Deux événements qui se sont produits cette semaine nous renforcent dans l'idée que cette opération était pertinente. Dimanche dernier, dans le cadre d'une interpellation pour violence conjugale, 6 armes longues non déclarées ont été saisies au domicile du mis en cause. Ce sont des armes qui auraient pu être utilisées par cette personne violente. Et puis, cambriolage au domicile d'une personne qui avait 11 armes de poing. Celles-là étaient déclarées, mais elles ont été volées. Il n'y a aucune naïveté sur le fait que les bandits, les voyous, n'allaient pas venir au commissariat ou à la gendarmerie pour rendre des armes. Mais malheureusement, ceux-là, lorsqu'ils font des cambriolages et qu'ils trouvent 11 armes de poing au domicile de quelqu'un, c'est 11 armes qui passent entre les mains des bandes criminelles. Donc moins d'armes, toute chose égale par ailleurs, c'est moins de risques pour la société corse.
Jérôme Filippini, le préfet de Corse, au téléphone de nos confrères d'ici Corse, Frequenza Mora. C'est une nouvelle étape dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Le territoire ne reçoit plus d'aide humanitaire depuis 2 mois. Il est toujours bombardé par l'armée israélienne. Mais le mouvement islamiste n'a pas déposé les armes et continue de détenir des otages. Alors le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce qu'il étend encore l'opération militaire en cours. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Faut-il comprendre qu'Israël se prépare à occuper Gaza ?
Eh bien, c'est en tout cas le nouvel horizon du gouvernement israélien qui, depuis début mars, resserre l'étau sur Gaza. Il y a d'abord eu l'arrêt des livraisons d'aide humanitaire, puis la coupure de l'alimentation électrique. Aujourd'hui, Israël occupe un tiers du territoire et, vous l'avez dit, les bombardements sont quotidiens, tuant comme ce matin des dizaines de civils. La stratégie de l'armée israélienne est implacable tant que le Hamas ne capitule pas et ne libère pas les 59 derniers otages. La pression militaire s'accroît. Écoutez le décryptage de l'analyste militaire Kobi Mikael de l'Institut israélien de la sécurité nationale.
L'armée israélienne prépare l'occupation totale de la bande de Gaza et la mise en place d'une administration militaire temporaire. L'objectif est de démanteler définitivement le Hamas en tant que puissance souveraine à Gaza. Ce n'est pas une nouvelle stratégie, c'est une étape supplémentaire.
Une étape supplémentaire donc, et si le Hamas ne cède toujours pas, il faudra aller encore plus loin. Benjamin Netanyahou ne cache pas son ambition d'appliquer le plan Trump et donc d'expulser la population palestinienne de Gaza si nécessaire, ce qui est évidemment contraire aux principes du droit international. Le président américain est aujourd'hui le seul capable de freiner les Israéliens, il n'a pour le moment pas réagi.
Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. En Jordanie, voisine d'Israël, une touriste belge ainsi que son fils sont morts dans des inondations dans le sud du pays. Ils avaient disparu pendant plusieurs heures. Hier, les autorités jordaniennes ont évacué près de 1800 touristes du site de Petra, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette région est de plus en plus sujette aux pluies intenses ainsi qu'aux tempêtes. En Roumanie, les électeurs ont confirmé 5 mois après leur souhait de voir le candidat d'extrême droite arriver en tête de l'élection présidentielle. La dernière avait été invalidée par la Cour constitutionnelle en raison d'une manipulation présumée du scrutin via des vidéos TikTok. La Russie avait été pointée du doigt. Mais hier, le nouveau candidat d'extrême droite, Georges Simion, a recueilli plus de 40% des suffrages. L'opposition pro-européenne tentera dans 2 semaines de faire gagner le maire de Bucarest, Nicuzor Ordan, qui est arrivé en 2e position, mais loin dernière, avec un peu plus de 20% des suffrages. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre envoyé spécial en Roumanie. Georges Simion revendique ouvertement l'héritage de Donald Trump. Et vous avez été l'une des rares journalistes à le rencontrer ce week-end. Quelle impression vous a-t-il laissé ?
Alors écoutez, nous avons eu un entretien avec lui samedi, veille du premier tour, et il nous a reçus à condition qu'on ne le qualifie pas de candidat d'extrême droite. Alors ici, beaucoup l'accusent d'avoir considérablement adouci son discours ces dernières années, n'affichant plus ouvertement ses positions ultranationalistes.
Mais je n'ai pas changé de position. J'ai 38 ans. Je suis né en 1986. J'avais 3 ans à la Révolution roumaine. Je ne peux pas être autre chose qu'un démocrate convaincu.
Autour d'une table entourée de journalistes de la presse dite alternative qui boit ses paroles tout en nous filmant, Georges Simion nous garantit n'avoir aucune sympathie particulière pour la Russie de Vladimir Poutine.
Je n'ai jamais aimé les Russes, ni avant de faire de la politique, ni maintenant.
Alors qu'il revendique en revanche sa proximité avec Donald Trump et dit qu'il faut en finir rapidement avec la guerre en Ukraine. Celui qui est aussi député européen, il est vice-président du groupe ECR, celui de Giorgia Meloni, nous assure ne pas être contre l'Union européenne, mais...
En tant que jeune Roumain, je veux faire partie du monde libre. Mais le monde libre, comme je le conçois, ne doit pas m'obliger d'accepter que mon fils, à 8 ou 10 ans, change de sexe.
Ici à Bucarest, Georges Simion est décrit par les analystes politiques comme anti-Bruxelles, souverainiste, mais surtout opportuniste, il a su pour ce premier tour parfaitement capter l'électorat de Calin Georgescu et même un peu plus.
Et conséquence de ce premier tour avec l'extrême droite en tête de cette présidentielle, le Premier ministre social-démocrate vient de démissionner en Roumanie. Virginie Pironon en direct de Bucarest avec Romain Lucquiens et Paul Kosygian. Alors qu'en Allemagne, les conservateurs du prochain chancelier allemand, Friedrich Merz, ont signé ce matin le contrat de coalition construit avec le parti de centre-gauche, le SPD. Mais l'événement de la semaine à l'étranger, ce sera évidemment la désignation d'un nouveau pape successeur de François. Les 133 cardinaux électeurs entreront en conclave mercredi après-midi au Vatican. Et d'ici là, nous vous présentons ceux qui seront ou ceux qui feront cette élection. Dans ce 13-14, l'évêque de Stockholm, Monseigneur Andrés Arborelius, un cardinal en terre protestante.
Je suis le premier évêque suédois de naissance depuis la réforme protestante et il n'y avait jamais eu de cardinal dans notre région du monde. C'est très étrange ce qui m'arrive.
Et si ce cardinal est cité comme possible pape, c'est parce qu'il incarne un réveil possible du catholicisme en Europe. Bruno Duvic est à Rome pour Inter.
La dernière fois qu'Anders Arborelius a vu François, il lui a présenté une femme pasteur. Elle l'avait aidé à transformer un temple protestant en église. Ainsi va la vie du prélat de 75 ans dans un pays où les catholiques ne représentent qu'1,5% de la population. Le Suédois né protestant, converti à 20 ans, incarne le dynamisme des églises minoritaires qu'adorait François. Dans l'Europe déchristianisée, il y aurait donc une possibilité de sursaut et grâce aux migrants. Car si la Suède gagne quelques milliers de catholiques chaque année, c'est largement grâce aux Irakiens et autres Syriens accueillis ces dernières années. Anders Arborelius les a choyés et ses talents ont attiré d'autres fidèles. En Suède, des pasteurs protestants mariés et convertis obtiennent des dérogations pour devenir prêtres. Conservateur au plan des mœurs, Monseigneur Arborelius, une longue vie de moine derrière lui, met la spiritualité au premier plan. En Europe, il compte, aux côtés du Hongrois Peter Erdő, du Maltais Mario Grec, du Français Jean-Marc Aveline ou des Italiens Matteo Zuppi et Pietro Parolin.
Portrait signé Bruno Duvic, un nouveau cardinal à découvrir dans nos éditions du soir. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je ne parle pas de l'élection du pape, mais de la bataille en ce moment pour accéder aux événements sportifs et culturels les plus courus, citons en deux. Paris Saint-Germain, Arsenal, mercredi soir, match retour de demi-finale de Ligue des Champions de football ou encore les concerts du rappeur Jules à Marseille au Stade Vélodrome les 23 et 24 mai prochains. À chaque fois, les arnaques se multiplient. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Alors ça n'est pas nouveau, mais le phénomène prend de l'ampleur.
Oui, comme pour le concert de Jules au Stade de France il y a une semaine, sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à se filmer recalés devant les grilles à l'image de Garance.
On vient d'arriver à Paris pour le concert de Jules. On est arrivé de Caen. On a fait 2 heures de route là pour se rendre compte que on s'est fait arnaquer. On n'a pas les places. On n'a pas les vraies places. Youhou !
Elle a acheté sa fausse place sur le Bon Coin après avoir passé plusieurs minutes au téléphone avec l'arnaqueuse, rassurante et convaincante. Des dizaines d'internautes racontent une mésaventure similaire, avec par exemple une place vendue à plusieurs personnes. Le premier qui scanne son billet entre, les autres restent sur le carreau. Les réseaux sociaux sont un terreau fertile pour les escrocs. Sur TikTok, X et Instagram, on peut trouver des places pour le concert de Jules au Stade Vélodrome et le match de Paris au Parc des Princes mercredi. Difficile de savoir si toutes ces annonces sont des arnaques. Mm-hmm. Ce que l'on constate encore ce midi concernant le rappeur marseillais, ce sont ses faux sites. Certains sont très bien faits, qui copient les billetteries officielles. Ils proposent des billets alors que c'est complet. Le comble, c'est que l'un de ces sites alerte dès la page d'accueil. Attention aux sites de revente frauduleux.
Ah, c'est le même site qui alerte
oui.
Et qui propose l'arnaque.
Exactement. Ce n'est pas une première, d'autres artistes sont touchés. Alors comment s'en prémunir ? De plus en plus d'organisateurs mettent en place leur propre plateforme de revente pour garantir les transactions et éviter la flambée des prix. C'est le cas du PSG, de Ticketmaster pour les concerts de Jules et de Roland-Garros, le tournoi de tennis pour ne citer que.
Voilà, soyez prudents et suivez ces recommandations. Merci Victor Vasseur, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Callac. Puis à partir de 13h30, que valent les annonces d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen ce matin pour attirer chez nous en Europe et en France les chercheurs qui sont installés aux États-Unis et qui veulent fuir Donald Trump ? Est-ce uniquement de la com? 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. 13h45, notre feuilleton avec l'ancien député André Chassaigne, figure de l'Assemblée nationale. Il a retrouvé ses terres d'Auvergne depuis quelques semaines. Nous allons l'y retrouver jusqu'à vendredi. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Mathieu, les nouveaux mots des dictionnaires.
Larousse, Robert, cette année encore, ils font entrer des expressions bien ancrées dans notre quotidien. Mais qu'en est-il des mots régionaux, parfois si vivants? S'astruquer, se ramiter, faire un gâté. Je vous explique ça tout à l'heure.
Et avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Jeanne Chéral, qui vient de sortir Jeanne, son 7e album. On aime bien. On aime beaucoup.
On peut le dire.
On aime énormément. Et avec elle, c'est une chanson de Camille que nous écouterons. Sa chanson « Ta douleur », dont l'audace, m'a dit Jeanne Chéral, lui a retourné la tête quand elle l'a découverte.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France 2. Demain soir, la Seconde Guerre mondiale comme on ne l'avait jamais vue. Une plongée vertigineuse au cœur du conflit planétaire qui a changé nos vies. 1939-1945 et le monde bascule. Votre nouvelle série documentaire, demain soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv.
Sur Akena.com, les bonnes affaires du moment. Sur Akena.com, je suis au firmament.
Ok Chantal, c'est lourd, mais viens, on la fait plus badass, t'as capté?
Ok Coco, balance l'instru. Sur Akena.com, je kiffe les bons gros deals. Sur Akena.com, je vais skier les crocodiles.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Le temps de votre après-midi.
La météo, avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, c'est un ciel changeant avec des averses pour le sud.
Oui, essentiellement. Alors, des frontières du nord vers le bassin parisien, le nord-ouest, le midi toulousain et l'Aquitaine, c'est agréable entre nuages et éclaircies. Plus de nuages tout de même près de la Manche avec un risque d'averses et un vent de nord-est qui renforce la sensation de fraîcheur. Et puis en allant vers le sud et l'est, là c'est plus encombré, surtout entre Bourgogne, Jura et Alpes. Des averses sont encore possibles. Parfois un orage sur l'est des Pyrénées, le Languedoc, les Alpes du Sud ou alors la montagne Corse. Le soleil se montre quand même davantage des Bouches-du-Rhône au Var et puis le vent souffle en Méditerranée jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Les températures sont trop basses pour la saison, souvent 2 à 4 degrés sous les normales, ça change par rapport à la semaine dernière. 11 à 16 degrés attendus au nord cet après-midi, 14 à 18 au sud, jusqu'à 23 en Méditerranée et puis demain ce sera à peu près le même programme.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Lamry Adoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes le président de l'université de Caen, Normandie, mais aussi celui de France Université, qui rassemble tous les dirigeants d'universités et des grandes écoles de notre pays. Et vous étiez ce matin, il y a quelques minutes, à l'université de la Sorbonne à Paris, pour écouter Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ils ont détaillé leur plan pour attirer les chercheurs, notamment américains, mais pas seulement, tous ces chercheurs qui souhaiteraient quitter les États-Unis car leurs travaux n'y sont plus possibles depuis l'élection de Donald Trump. L'idée, c'est de les faire venir en France et en Europe. Ça pose beaucoup de questions parce qu'on sait que chez nous, l'argent manque et de plus en plus d'enseignants-chercheurs sont en situation de précarité. Un exemple, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre pays a été réduit d'un milliard d'euros cette année. Alors, a-t-on les moyens de nos ambitions? Est-ce vraiment la priorité d'accueillir ces chercheurs qui sont en ce moment installés aux États-Unis? Voilà quelques questions pour vous. Vous pouvez rajouter les vôtres. 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter. Numéro composé par Marie-Josée. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Josée,
bonjour,
vous êtes à Ajaccio.
Merci de prendre ma question.
Oui, nous vous écoutons.
Voilà, mon fils est chercheur. Après un parcours d'excellence en France, il a obtenu un doctorat en biologie moléculaire. Il est parti à New York, à l'université de Columbia, depuis 2017, avec son épouse qui est généticienne. Depuis les élections aux États-Unis, le climat est beaucoup plus difficile, beaucoup plus inquiétant. Ils aimeraient bien tous les deux rentrer en France. Et moi, je suis très perplexe devant... le tapis rouge, entre guillemets, qui est déroulé, semble-t-il, aux chercheurs américains, les efforts financiers qui vont être faits, alors même que la recherche en France, et depuis très longtemps, je me souviens du discours de M. François Hollande dans les jardins de l'Institut Curie, Les budgets sont très contractés. Les postes qu'on offre, même à des chercheurs diplômés et expérimentés, sont la plupart du temps ne sont pas pérennes, des CDD et des salaires qui n'ont rien à voir avec ceux des États-Unis.
Merci Marie-Josée pour cette question. Lamry Adoui, est-ce que vous pouvez expliquer à Marie-Josée dans quelle mesure ces annonces sont positives? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne veux pas préjuger de ce que vous allez nous dire, mais dans le contexte qu'on connaît, qui est celui d'une crise de financement pour notre recherche.
Alors effectivement, d'abord peut-être une précision, les annonces qui ont été faites ce matin ne concernent pas les chercheurs américains, mais concernent tous les chercheurs qui sont en difficulté au niveau des libertés académiques, ce qui signifie qu'on ne se restreint pas du tout aux États-Unis ni aux chercheurs américains.
Donc notamment les Américains, mais pas uniquement, c'est ça ?
Bien sûr, et on comprend bien que le moment très symbolique et très important du tournant que représentent les décisions de l'administration Trump, il y a un avant et un après sur la restriction des libertés académiques dans ce qui est la première nation scientifique du monde, qui a construit même sa démocratie sur le respect des libertés académiques et sur le fait d'accueillir, comme vos enfants probablement, madame, vraiment les chercheurs et les talents du monde entier pour innover, pour rechercher, pour prendre un coup d'avance, j'allais dire. Et donc, c'est un tournant. Et donc, je dirais de façon assez naturelle qu'il me semble indispensable de prendre des mesures qui soient des mesures fortes et des mesures qui ne sont pas restreintes aux Américains.
Oui, là, je suis un chercheur chinois, je veux quitter mon pays, je veux venir travailler en France, je peux prétendre à ce programme?
Alors, il y aura effectivement des sélections qui seront faites en particulier sur la qualité des dossiers. Si on a bien compris les annonces qui ont été faites par Ursula von der Leyen ce matin pour Choose Europe for Science et par le président de la République pour la France.
Mais est-ce que c'est raisonnable dans le contexte qui est le nôtre de sous-financement que décrit Marie-Josée, mais que décrivent beaucoup d'acteurs du secteur ?
Alors, ça n'est pas incompatible. D'un côté, je pense qu'il y a une urgence à réagir parce qu'on est dans un moment de bascule des libertés académiques. Un institut international démontre que ce ne sont pas seulement les États-Unis, mais ce sont aujourd'hui 34 pays dans le monde dans lesquels les libertés académiques reculent. Or, on sait que quand une démocratie recule, ce sont les libertés académiques qui sont attaquées en premier. Et à contrario, quand on commence à attaquer les libertés académiques, c'est très souvent que la démocratie est en train de reculer et est en danger. Donc, cet effort est indispensable. Ça n'empêche pas, évidemment, et vous avez raison, que nous réclamons plus de moyens pour l'université française au quotidien de façon générale, particulièrement en termes de fonctionnement des établissements.
Est-ce que vous êtes en lien en ce moment avec des collègues américains? C'est quand même l'élection de Donald Trump qui amène ce plan aujourd'hui. Est-ce qu'ils vous font part de travaux qu'ils ne peuvent plus poursuivre? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner?
Ah oui, tout à fait. Sur, par exemple, l'aéronautique, sur des enjeux dans le domaine de la santé, puisqu'on a des collègues...
C'est-à-dire l'aéronautique, par exemple?
Alors, par exemple, vous avez une rupture des financements. L'administration Trump envoie des courriers, par exemple, aux universités australiennes aujourd'hui, mais françaises probablement demain, pour demander, par exemple, est-ce qu'il y a des déclarations d'intérêt avec la Chine? Et est-ce que le projet est bien nécessaire dans une collaboration avec les États-Unis?
Oui, ça ne s'adresse pas aux équipes américaines, ça s'adresse aux équipes à travers le monde.
Largement.
Disant, si vous collaborez avec les Chinois, on arrête de vous financer.
Mais vous voyez, par exemple, la disparition des bases de données dans le domaine de la santé, dans un milieu qui est interconnecté, demain, est-ce qu'on aura la capacité de détecter une pandémie mondiale si les bases de données dans le domaine de la santé disparaissent du jour au lendemain? Parce que c'est bien de ça dont on est en train de parler.
Ça, c'est un risque ou une réalité?
C'est déjà une réalité.
Réalité, c'est-à-dire qu'en partie, vous n'avez plus accès, les chercheurs français n'ont plus accès aux bases de données américaines?
Exactement, et on pourrait parler du changement climatique, avec toutes les données du GIEC, par exemple, et donc sur des problèmes qui sont des problèmes globaux à l'échelle mondiale.
Le fils de Marie-Josée qui vient de nous appeler nous dit « Mon fils est aux États-Unis, il est parti travailler là-bas. » Est-ce qu'il est concerné par le programme? Est-ce que des chercheurs français peuvent profiter de ce programme pour revenir en France?
Oui, bien sûr. Alors, d'après ce qu'on comprend du programme pour l'instant, ça va être normalement une candidature sur des contrats de 3 ans. Dans un premier temps, et puis on l'espère pérenniser un certain nombre de ces emplois derrière. Alors je ne sais pas quel est le statut du chercheur en question, s'il peut prétendre directement à être statutairement titularisé, mais en tout cas, on espère qu'un certain nombre de ces emplois seront pérennisés.
On est un peu prudent aujourd'hui, Lamry Adoui, parce que j'ai regardé ce qui s'était fait après le Make Our Planet Great Again, vous vous souvenez de l'appel lancé par Emmanuel Macron après le premier mandat de Donald Trump. Bon, au final, 255 candidatures avaient été reçues en France par les universités. Il y a 40 chercheurs qui étaient venus s'installer en France. Et au final, c'était beaucoup des Français qui étaient de retour Donc il n'y avait pas beaucoup de chercheurs étrangers qui avaient été convaincus par ce programme.
Alors c'est difficile d'estimer aujourd'hui la part et l'afflux de candidatures que nous allons recevoir. Vous savez que quelques établissements ont fait des appels spécifiques. Je pense à l'Université d'Aix-Marseille qui a reçu en l'espace de quelques semaines 300 candidatures. Bien entendu, de tout âge, hein, des jeunes, des doctorants, des post-docs, des chercheurs un peu plus seniors. On sait que le CNRS a lancé aussi le fait de publier ses chaires de professeurs juniors à l'international et particulièrement vers les États-Unis. Donc, il est difficile pour l'instant d'estimer le volume de chercheurs qui seraient potentiellement intéressés.
Ça veut dire que des chercheurs du monde entier vont pouvoir candidater. C'est ce que vous nous dites. Cela étant dit, Emmanuel Macron a précisé ce matin, je le cite, « un chercheur étranger ne remplacera pas un chercheur français ». Voilà ce qu'a dit le chef de l'État.
C'est de l'extra-budgétaire, ce qui signifie que ça ne sera pas pris sur normalement les moyens des établissements. Et donc, il ne faudra pas voir le recrutement d'un chercheur américain comme contre un gel de poste, j'allais dire, de chercheurs français. On aimerait des petites annonces sur le fonctionnement des universités.
Vous dites normalement, Lamry Adoui.
J'ai cette
prudence de langage.
Non, mais j'ai cette prudence parce qu'on le sait très bien, il y a eu beaucoup d'argent pour l'enseignement supérieur et la recherche ces dernières années dans le cadre d'une loi de programmation pour la recherche, avec des recrutements de chaires, des repyramidages, un indemnitaire qui est augmenté, y compris le salaire des doctorants, par exemple. Donc, il y a eu des efforts de fait. Néanmoins, ces efforts sont un peu moins là sur la question du fonctionnement récurrent de nos universités, qui sont toujours un peu en difficulté, notamment sur un certain nombre de mesures que le gouvernement décide. Je pense à l'augmentation du point d'indice, par exemple, des agents de la fonction publique, qui n'est finalement pas compensée par l'État lui-même.
Quel est le budget de votre université à Caen ?
300 millions d'euros.
300 millions d'euros, là, c'est 100 millions d'euros supplémentaires qu'a annoncé le chef de l'État ce matin pour qu'on ait une idée, un ordre de grandeur. Marie nous appelle de Paris. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Je suis enseignante-chercheuse à la Sorbonne, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je voulais témoigner des petites difficultés que rencontre mon université à l'heure actuelle, puisque à cause du défaussement de l'État, ce sont 50% du budget de fonctionnement qui sont amputés cette année et des années à venir. Et je voulais donc interroger monsieur le président de France Université sur la contradiction qu'il pouvait y avoir à annoncer au sein même du bâtiment de la Sorbonne l'allocation d'une généreuse contribution pour accueillir des chercheurs étrangers, accueil qui est nécessaire. La solidarité envers les chercheurs étrangers qui ne peuvent pas accomplir leur mission est importante, mais il se trouve que dans mon université, dans les mêmes murs de la Sorbonne, nous ne pouvons plus accomplir nos missions quotidiennes à cause de ces 50% de coupes budgétaires qui viennent du défaussement de l'État.
À quoi est-ce que vous renoncez concrètement, Marie ? À quoi est-ce que vous renoncez dans votre université ?
Eh bien, par exemple, c'est 85% de coupes budgétaires sur l'acquisition des livres pour la bibliothèque de la Sorbonne. C'est quelque chose de très concret, je pense.
Donc les étudiants ont moins accès aux livres ?
Ah bah oui, on va pas pouvoir commander autant de livres que chaque année. Et puis, bien entendu, c'est toutes nos missions. Il faut qu'on choisisse en ce moment si on s'ampute le bras ou la jambe.
Merci Marie pour votre témoignage, pour votre question. Lamry Adoui, contradiction, nous dit Marie.
Oui, alors je veux décorréler les deux sujets. Encore une fois, je rejoins Marie sur le fait que dans les universités, la façon dont on conçoit l'accueil, l'ouverture, l'inclusion au sein de nos universités, ce programme et cet effort, il est indispensable. Et c'est vrai, cet effort, il doit être accompagné d'un effort pour le fonctionnement des universités. Je l'évoquais tout à l'heure, les coupes que Paris 1 connaît aujourd'hui provient probablement en partie du fait que l'augmentation des fonctionnaires n'a pas été compensée par l'État, et donc l'État demande aux universités d'assumer une décision qui est prise par lui-même. Et donc, ça peut mettre les universités effectivement en difficulté et à revoir un certain nombre de priorités en termes de fonctionnement qui fait que le quotidien peut être un peu plus difficile.
Bon, on a des moyens limités, on ne le découvre pas. Lamry Adoui, quelles sont les disciplines qu'on vise ? Est-ce qu'on cherche à attirer tous azimuts ou bien est-ce qu'il y a des disciplines particulières ? Vous avez parlé de l'aéronautique, de l'espace, le climat, la santé, est-ce que ce sont les sciences humaines ?
Alors, l'État a fait un choix thématique et elle a organisé ses organismes de recherche en tant qu'agence de programme, nationalement depuis environ 2 ans, avec 7 agences de programme qui portent 7 grandes thématiques nationalement. Et donc, la priorité a été donnée à ces 7 grandes thématiques. On peut ajouter, je pense, les sciences humaines et sociales qui n'apparaissent pas explicitement sur l'appel à projet Choose France for Science, mais qui font partie des disciplines qui sont systématiquement les plus attaqués quand on essaye de s'attaquer aux libertés académiques.
Ça paraît contradictoire. Ce sont les plus attaqués, vous nous dites, les sciences humaines aux États-Unis, mais ça n'apparaît pas, elles ne sont pas inscrites dans le projet.
C'est effectivement un choix qui a été fait. Elles sont inscrites un peu partout. Quand on parle d'agriculture, de développement soutenable, il y a forcément des sciences humaines et sociales. Quand vous parlez d'un certain nombre de climat, quand vous parlez, il y a forcément des sciences humaines et sociales. Par contre, c'est vrai que tel que l'appel est rédigé, elle ne couvre pas toutes les sciences humaines et sociales, c'est une évidence. Même si on a cru comprendre que la liste des thèmes n'était pas exclusive, j'ajoute qu'après, tous les dispositifs du CNRS, des universités françaises, incluent, elles, cette question des sciences humaines et sociales.
Ça veut dire que les universités françaises ne renoncent pas à lutter contre les discriminations,
bien sûr.
Comme invite Donald Trump les universités américaines à le faire.
Non, on a une culture, j'allais dire, d'inclusion et de lutte contre les discriminations qui est extrêmement claire. Et les universités françaises ne sont pas en recul de ce point de vue.
Gérard est en ligne avec nous. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Vous êtes en Saône-et-Loire, nous vous écoutons.
Je m'étonne. Alors, juste un petit constat avant les deux questions.
Très vite, il nous reste moins de 2 minutes.
Le constat, c'est que chaque année que l'Académie Nobel honore la France de prix pour ses scientifiques, je me rends compte qu'ils travaillent à l'étranger. Tous. Notamment sous les deux mandats de M. Macron. Que vont apporter ces 100 millions, parce que ça me paraît bien dérisoire par rapport à ce que ça doit permettre de recherche et d'aide à tous ces gens-là. Et ma question, c'est est-ce uniquement le fait d'un problème budgétaire que nos têtes scientifiques partent à l'étranger ?
Merci Gérard pour cette question. Lamry Adoui, déjà sur le constat, tous les scientifiques français qui sont ou chercheurs qui sont récompensés travaillent à l'étranger ?
Pas tous. Emmanuel Charpentier, par exemple, oui. Serge Haroche, par exemple, non. Alain Aspect, non plus.
Oui, j'avais le souvenir qu'Alain Aspect était à Paris-Saclay, me semble-t-il.
Voilà. Ouais. Donc, non, je ne pense pas qu'on puisse généraliser à ce point. Après, qu'il y ait, par exemple, en termes de conditions de travail ou de salaire, des pays qui soient plus attractifs que les nôtres, c'est une évidence. Et c'est bien un des enjeux sur lesquels il faudra que la France et l'Europe se penchent si on veut justement redevenir et devenir un pays extrêmement attractif pour tous les talents internationaux.
Est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui ? François Hollande propose de créer un statut de réfugié scientifique, lui qui est désormais député. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée ?
Alors, il y a des discussions en cours, y compris par exemple sur le fait de savoir s'il faut constitutionnaliser les libertés académiques. Voilà, parce qu'on a vu qu'en quelques semaines, l'administration Trump avait quand même renversé...
Pour se prémunir de dérives.
Bien sûr, parce que nous ne sommes à l'abri de rien en Europe. Et donc, comment pouvons-nous nous prémunir, finalement, d'un basculement, j'allais dire, politique qui pourrait avoir envie de s'attaquer aux libertés académiques ? Donc, il faut essayer de s'en prémunir. Et par ailleurs, Ursula von der Leyen, ce matin, a annoncé que dans la loi européenne sera probablement inscrite cette question de défense des libertés académiques.
Avec 500 millions d'euros mis sur la table par l'Union européenne, c'est le chiffre avancé ce matin par la présidente de la Commission européenne, en plus des 100 millions annoncés par le chef de l'État. Merci Lamry Adoui d'avoir été avec nous dans ce 13-14, président de l'Université de Caen-Normandie et de France Université, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton et cette semaine nous suivons un homme dans sa nouvelle ville. Il s'agit d'André Chassaigne, 74 ans, député communiste du Puy-de-Dôme pendant 23 ans. Il vient de renoncer à son mandat, il a passé la main il y a un mois et avant de le retrouver demain chez lui en Auvergne, premier épisode aujourd'hui, il rend les clés de son bureau-chambre situé rue de l'Université, juste en face de l'Assemblée.
Le meilleur compliment qu'on peut me faire, vraiment le meilleur, c'est quand des gens me disent « Dédé, t'as pas changé ». C'est un peu comme mon père, hein, qui se levait à 4h du matin pour aller prendre son boulot chez Michelin, qui faisait 5h, 1h, qui a travaillé toute sa vie avec le sens du travail bien fait, parce que toujours un peu considéré comme un ouvrier, quoi, qui vient ici pour fabriquer la loi. Et c'est pour ça que je suis très surpris par tout ce mouvement là autour de moi, parce qu'il y en a eu d'autres qui sont partis dans des conditions beaucoup plus difficiles que moi. Moi, je pars avec sérénité. Là, c'est mon bureau-chambre. Le lit, c'est un lit placard. C'est-à-dire que le soir, je bascule, je descends mon lit, je mets les cales à mes jambes, je mets l'oreiller, et c'est donc là où je dors. Et c'est un cycle de vie qui est très rythmé. On se donne une discipline de vie. Mais quant à ce qu'on peut penser, on n'est pas là pour faire bombance, quoi. Je tiens énormément à ça. Et quand je pars le jeudi après-midi, j'arrive chez moi, j'habite à 900 mètres d'altitude, c'est un petit village, 500 habitants. Je respire et quand j'arrive, si je descends, si je suis en voiture, je vois les volcans près de Clermont-Ferrand. C'est une forme de bouffée d'oxygène que je prends en arrivant.
Qu'est-ce qui va vous manquer ?
Ça ne me manquera pas, mais il y a une chose qui va créer le plus grand vide, c'est la pression continuelle. Quand on est président de groupe, d'avoir toujours des choses à gérer. Mentalement, je ne suis pratiquement jamais libéré, et même d'ailleurs le week-end. Parce que c'est un problème que je peux avoir avec un député du groupe, c'est réfléchir à qui va intervenir sur un texte de loi, c'est l'obligation de lire une tribune qui est soumise et on nous demande 24 heures pour dire si on la signe ou pas. C'est un communiqué de presse à préparer. Donc, il y a ce que j'appellerais une charge mentale. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui va être pas dur à supporter, mais qui va me libérer l'esprit.
Je vois que vous n'avez rien de très personnel ici. C'était vraiment un endroit tourné vers le travail.
Non, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de cadre de famille. En fait, j'ai toujours beaucoup cloisonné la vie familiale et mon activité politique. Le reproche m'a déjà été fait, hein. Mon épouse me dit, mais tu te rends compte, depuis que tu es député, je suis monté qu'une seule fois à Paris, c'était au début de mon mandat. Et quand les gens me disent, mais tu vas tout seul à Paris, mais je dis oui, je suis à Paris pour travailler. Mais là, par exemple, j'ai tout un tas de propositions de loi ou de rapports, certains dont j'ai été l'auteur, pour mon suppléant, je lui demanderai ce qu'il veut garder.
Oui, il y a des piles là, de livrets jaunes, voilà, bleus,
ça, c'est les verts. C'est les brochures de l'Assemblée nationale, c'est l'édition des propositions de loi, des propositions de résolution ou des rapports. Ça, c'est le résultat concret, pour partie, parce qu'il n'y a pas que ce que j'ai pu faire moi, de travail. Je crois que quand on est député, il faut montrer l'exemple et ne pas faire semblant. Parce qu'on peut faire semblant, avec des lettres types, en étant uniquement sur la communication. Je crois que si on veut redorer le blason du politique, il faut qu'on soit soi-même un exemple. Ça ne paye pas forcément, mais en tout cas, dans la durée, je suis persuadé que c'est important.
Claire Flochel, pour ce feuilleton, demain nous serons chez lui, dans le Puy-de-Dôme.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h51, le français de nos régions avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Mathieu, tous les ans au mois de mai, les dictionnaires annoncent leurs nouveautés. Et on va voir qu'ils font peu de cas des mots de nos régions. D'abord, comment décide-t-on qu'un mot mérite d'entrer dans le dictionnaire ?
Eh bien, c'est un choix difficile pour ne pas dire cornélien, car seulement 150 mots environ rejoignent chaque année les nouvelles éditions de dictionnaires. Et c'est très peu, surtout quand on sait combien le français innove. Disons pour faire simple que c'est une affaire de fréquence. Mmh. Un mot doit être employé souvent et dans des contextes variés. Les équipes de lexicographes scrutent les journaux, la télévision, les livres, mais aussi Internet et les réseaux sociaux. Dès qu'un mot devient fréquent, et surtout quand il se stabilise dans l'usage, il a une chance d'être sélectionné. Cette année, par exemple, avec l'actualité sportive, on a vu apparaître l'adjectif paralympien, ainsi que des mots comme boccia et sessifoot, trois termes qui sont liés aux Jeux paralympiques. Mmh. Côté cuisine, ce sont des termes comme food truck, skir ou encore onigiri qui rejoignent notre quotidien. À cela s'ajoute la diversité des usages. Un mot cantonné à un jargon professionnel aura moins de chances d'être retenu qu'un mot passé dans la langue courante, même si parfois on voit apparaître des termes plus jeunes comme glamping, contraction de glamour et camping, mm-hmm. ou capé, emprunté à l'anglais capt, qui signifie limité à un maximum.
Et c'est la même chose pour les mots régionaux ?
Très bonne question, Jérôme. Pour les régionalismes, c'est un peu différent. Pendant longtemps, les dictionnaires généraux n'y faisaient presque pas attention. Ils privilégiaient surtout le français standard, celui des médias parisiens. Ce n'est qu'à partir des années 60-70 que des mots utilisés exclusivement en province ont commencé à apparaître explicitement dans les nomenclatures du Petit Robert ou du Petit Larousse. Mais aujourd'hui encore, leur traitement reste très inégal. Cette année, dans le Larousse, on a fait entrer « sastruquer », une expression emblématique des Ardennes qui signifie avalé de travers. Mais il manque toutefois le verbe s'entrucher, qui veut dire la même chose et qui s'emploie plus largement en Champagne. D'autres termes sélectionnés, comme se ramiter dans le Maine ou se rabienner en Normandie, qui signifie tous deux redevenir amis, sont entrés dans les pages du Larousse, mais sont pourtant peu attestés, ce qui complique leur reconnaissance. Dans le Robert, on privilégie plutôt les régionalismes qui se sont largement diffusés, notamment par l'intermédiaire des rappeurs. C'est le cas du mot gâté, qui veut dire câlin, popularisé dans l'expression mon gâté, mon chéri, comme on dit, à Marseille. Mais j'aurais pu aussi vous parler du mot fraté, qui vient de Corse et qui est en fait un synonyme de frère.
Et je crois que vous avez des idées, Mathieu, pour enrichir nos dictionnaires.
Mais oui, et il y a de quoi faire. En Savoie, par exemple, je me demande quand entrera enfin le mot « crouet », qui désigne un enfant ou quelque chose de petit. On parle, par exemple, d'un crouet sapin, pour désigner un tout jeune sapin. Et puis sinon, il y a un mot utilisé dans la région d'Angers qui me fait toujours sourire. « Topette », qui s'emploie pour dire « au revoir ». Alors, en attendant une validation officielle, je vous dis à lundi prochain. Allez, « Topette Ginette ».
Topette Jérôme, peut-être, et Topette Mathieu aussi, merci, mais ça rimait effectivement, cher Mathieu, avant-y pour ce C'est la France. De C'est la France, ça c'est une chanson. C'est la chanteuse Jeanne Chéral qu'on retrouve à votre micro, Frédéric Pommier.
Elle vient de publier Jeanne, son 7e album, lumineux, merveilleux album qu'elle joue en ce moment en tournée. Et c'est d'une chanson de Camille qu'elle a souhaité me parler.
Camille, c'est quelqu'un pour moi qui est dans une créativité permanente. Et quoi qu'elle fasse, on la reconnaît tout le temps et c'est une tête chercheuse. Elle m'émeut énormément dans ses chansons. Et puis c'est quelqu'un dont je suis proche, c'est une amie.
Depuis longtemps ?
Depuis une vingtaine d'années, ouais.
Pourquoi elle vous émeut ?
Elle m'émeut par son authenticité. Elle est vraie tout le temps. Et puis par sa manière de chanter. Déjà, c'est une vocaliste virtuose qui peut absolument tout faire avec sa voix, mais elle n'a pas envie de tout faire. Elle fait les choses quand ça a du sens. Elle n'est jamais dans la démonstration. Ça, ça m'émeut aussi. Et vraiment, tout ce qui lui arrive, je regarde ça avec la bienveillance d'une sœur, presque.
Vous la considérez un peu comme une sœur ?
Oui, il y a quelque chose de ça, oui. C'est vrai. En plus, on est nés à quelques jours d'intervalle. On est poissons, toutes les deux. Et on a une proximité assez évidente, oui.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur.
Alors, cette chanson, Frédéric, c'est Ta douleur, sortie en 2005.
Oui, sur l'album de Camille Le Fil, album que Jeanne Chéral trouve tout simplement génial.
Au départ, ce qui m'a complètement retourné la tête dans cette chanson et dans cet album qui est sorti il y a 20 ans cette année, c'est la liberté, l'audace et le jamais entendu que revêtait tout le disque. Et dans Ta douleur en particulier, il y a tout un traitement des voix, on l'entend faire des bruits, des choses qui jamais n'avaient été faites en chanson. Enfin, et encore une fois, c'est pas la démo, c'est juste qu'elle est comme ça et elle fait ces bruits-là parce qu'ils font partie de son quotidien, ils font partie de sa voix. Je suis en plus très sensible à la manière dont elle parle de comme si quelqu'un allait mourir, quoi. Enfin, je me suis toujours dit que ça pouvait être quelqu'un qui est en phase terminale d'une maladie. Enfin, je suis très sensible à ça, en fait, aux sujets très très graves dans les chansons qui sont emballés, enrobés par une musique légère, dansante. Enfin, moi, je pratique un peu ça aussi. Sauf que c'est une certaine courtoisie d'aborder des choses très graves tout en les présentant dans leur forme avec gaieté, avec joie, avec astuce. Ça, j'adore. Oh, je gargouille ! Vous m'avez entendu gargouiller ? Parce que j'ai faim, en fait.
Ça pourrait être dans une chanson de Camille, ce gargouillis.
Bah, complètement. Tout fait chanson. Moi, je crois beaucoup à ça aussi.
Je prends ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins ?
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, d'avoir envie de prendre la douleur de quelqu'un ?
Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, c'est très intime, mais même ça peut être carrément le genou qui saigne de mon enfant. Je me dis, bon, bah voilà, ça pourrait être moi, ce serait réglé.
Et vous, est-ce qu'il vous est arrivé que quelqu'un vous dise « je vais prendre ta douleur » ou une phrase approchante?
Ouais, une phrase approchante qui serait « si t'es contente, je suis content ». Ça, c'est la bienveillance à l'état pur, ça. J'ai la chance d'avoir quelques personnes qui me voient comme ça dans leur vie. Enfin, ça n'a pas de prix, ça. Une personne en particulier.
Ça s'appelle l'amour.
Je crois qu'on peut appeler ça l'amour.
Il vous est arrivé, je crois, de reprendre des chansons de Camille, mais je ne crois pas que vous ayez repris celle-ci encore.
Ah non, oh non, je suis incapable. Non, c'est trop lié à elle. Inreprenable.
C'est trop Camille.
C'est trop Camille. Oh là non, mais je gargouille trop.
Et là, je crois que c'est moi.
Ah bon? Gargouillons de concert.
Ta douleur, Camille, c'était donc Frédéric, le choix de Jeanne Chéral.
Et les gargouilles de Jeanne Chéral, actuellement en tournée avec Jeanne, son nouvel album. Elle sera la semaine prochaine à Cahors et à Aix-en-Provence.
Les gargouilles, c'est très 13-14. Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
La géologie avec vous.
Absolument, la géologie au service des enquêtes policières.
Dans la Terre au carré, à tout de suite.